Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Dans cette libre antenne, cet espace de confidence, de partage et d'apprentissage. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et je vous accueille pendant ces 2 heures pour vous aider à faire un pas de côté, à prendre un peu de recul sur votre vie et vos soucis. Parce que quelquefois on voit mieux les choses d'un peu plus loin et on les voit mieux à deux. La vie est une drôle d'aventure et il y a quelqu'un qui en parle merveilleusement au fil de ses livres, c'est Éric Emmanuel Schmitt. J'ai choisi pour vous ce soir et pour commencer cette émission, un petit extrait d'Oscar et la Dame Rose. J'ai essayé d'expliquer à mes parents que la vie, c'était un drôle de cadeau. Au départ, on le surestime ce cadeau. On croit avoir reçu la vie éternelle. Après, on le sous-estime. On le trouve pourri, trop court, on serait presque prêt à le jeter. Enfin, on se rend compte que ce n'était pas un cadeau, mais juste un prêt. Alors on essaie de le mériter. Moi qui ai 100 ans, je sais de quoi je parle. Plus on vieillit, plus il faut faire preuve de goût pour apprécier la vie. La vie, votre vie, venez m'en parler ce soir, venez prendre la parole en appelant le 3921. Je serai ravie de vous accueillir sur cette antenne pour échanger avec vous. Vous pouvez aussi participer par SMS en tapant le 73921 et en commençant bien par le mot « nuit ». Toute l'équipe est prête à vous accueillir, Amandine et Hassan au standard et Andreas Papadian à la réalisation. La libre antenne, ça peut donc commencer maintenant.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et on va ouvrir cette libre antenne avec Karine qui souffre d'une maladie génétique rare et qui a besoin de soutien. Ce soir, on va faire sa connaissance dans un instant.
Sur Europe 1, Sabine Marin.
Et donc bonsoir à vous Karine.
Oui, bonsoir Sabine, merci de m'accueillir à l'antenne.
Bienvenue sur cette libre antenne. Merci. Alors Karine, vous souffrez d'une maladie génétique qui s'appelle le syndrome Ehlers dans l'os, c'est ça?
Oui, enfin j'ai plusieurs problèmes, dont, et entre autres, j'ai cette maladie génétique rare qui a été diagnostiquée. Mmh. Et donc aujourd'hui, donc je suis dans une situation, dans une impasse thérapeutique, parce que le corps médical n'a rien à me proposer.
Alors pardon, mais pour être un peu clair sur cette maladie, parce que je crois que les gens la connaissent peu, c'est une maladie c'est une anomalie du tissu conjonctif.
Tout à fait.
C'est une sorte de protéine en fait que vous ne fabriquez pas ou mal, c'est ça?
Il y a une dans cette pathologie-là, qui n'est peut-être pas responsable de ce qui m'arrive aujourd'hui parce que j'ai eu un accident médical important et qui a occasionné donc des dégâts, mais cette pathologie-là peut aussi avoir sa part de responsabilité. Et effectivement, il s'agit d'une déficience du collagène avec et bien sûr avec comment des troubles, il y a une hyperlaxité mais qui concerne aussi les organes internes quoi.
Oui.
Donc ça peut, quand il y a des traumatismes, ça peut peut-être se rajouter.
C'est-à-dire qu'on résume quelquefois cette maladie, on dit que le corps devient comme une maison qui n'aurait plus de fondation.
Oui, on peut dire ça. Oui, on peut dire ça. Peut-être, oui. Pourquoi pas, oui.
Qu'est-ce qui est compliqué alors pour vous là?
Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'à présent, donc j'ai une gastroparésie avec aussi une parésie du système, des intestins. Je ne peux plus m'alimenter et on me laisse comme ça, quoi. Parce qu'il n'y a pas de sous prétexte, qu'il n'y a pas de solution et que donc je me retrouve dans un contexte compliqué. Et je ne vais pas entrer dans plein de détails médicaux pour ne pas vous envahir, mais ce que je ne comprends pas, c'est que sous prétexte que ma situation est difficile et rare, on me laisse, on m'abandonne, quoi.
Quand vous dites, sans rentrer dans des détails très médicaux, mais quand vous dites que vous ne pouvez plus vous alimenter, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand vous mangez normalement?
Non, c'est pas comme ça que je vais vous l'expliquer. Comme y a une parésie, il y a plus de vidange possible. Et quand la vidange, donc il y a une stase stercorale chronique, par exemple, et donc je suis obligée de cesser de m'alimenter pendant 2 ou 3 jours. Or, comme je suis très faible et que j'ai déjà une déficience sûrement des protéines, etc., donc je ne fais que m'aggraver. Et comme je ne suis pas non plus toute jeune, ma situation s'est beaucoup aggravée ces derniers mois.
Comment vous tenez le coup alors ?
Alors, j'ai tenu le coup jusqu'à présent parce que j'ai eu quand même l'énergie mentale pour me trouver un tas de soins qu'on appelle énergétiques, un tas de soins dits autres ou parallèles, différents d'allopathie, et donc à savoir la médecine chinoise, acupuncture, ostéopathie, etc. Donc j'en ai fait, mais constamment, là, je fais de l'acupuncture tous les 2 ou 3 jours en ce moment, ce qui m'a permis de rester potable physiquement. Mais néanmoins, plus rien ne fonctionne. Donc là, en ce moment, je baisse les bras parce que je me dis, j'ai personne autour de moi pour. Je voudrais bien appeler quelqu'un au secours, mais j'ai personne. Donc, je me retrouve quand même dans une situation d'abandon avec des. Enfin, je vois pas comment ça va finir, quoi.
Vous n'êtes pas suivi, par un médecin ?
Non, parce que je peux pas avoir de suivi parce que dès l'instant, on me dit, on peut rien pour vous. C'est difficile à entendre à notre époque. Pour moi, c'est surréaliste, quoi. Je comprends vraiment pas. Mais on me le dit, on me regarde, on me dit, on ne peut rien pour vous. Donc.
Et vous me parlez tout à l'heure de plusieurs pathologies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se greffe là-dessus ?
Je vous dis, enfin, il y a une il y a une atteinte aussi des mitochondries qui a été trouvée dans un service spécialisé génétique aussi lorsqu'on m'a fait une biopsie. Alors la mitochondrie, c'est aussi important. Alors je ne sais pas si chez moi c'est une cause ou une conséquence, mais c'est quand même un élément pas banal. Quand on m'avait dit ça, je ne savais pas ce que c'était, mais maintenant je sais ce que c'est qu'une mitochondrie. C'est quand même l'énergie. Ça sert aussi à faire fonctionner nos organes. Donc c'est pas un détail anodin. Et comme me disait un médecin dernièrement acupuncteur, vous avez un dossier médical béton. Alors je comprends pas qu'on m'hospitalise pas pour faire le point et déjà me porter assistance, peut-être me réhydrater si j'ai besoin, voir mes carences parce qu'il y en a forcément. Enfin, je sais pas, je comprends pas quoi. Sous prétexte que finalement la situation est rare, j'intéresse pas quoi. Donc je suis assez surprise.
Je crois que c'est le drame de toutes les maladies génétiques rares. Cette espèce d'indifférence, cette espèce de silence.
Oui, mais moi, il y a eu les médecins le reconnaissent. Il y a eu une erreur médicale lors d'une intervention il y a déjà 20 ans. Et ça, donc la paralysie digestive, elle est probablement plutôt elle est due à l'erreur médicale et non pas à la pathologie et l'air dans l'os. D'accord. Mais l'air dans l'os peut-être peut. C'est pas un cadeau quoi quand la situation est difficile sur un plan traumatique puisque c'était un traumatisme et donc et là, je suis dans une petite ville et donc je vois pas vers qui me tourner quoi. J'ai fait en ce qui me concerne tout mon possible, mais là je suis maintenant le train s'éloigne quoi, il s'éloignait peu à peu.
Est-ce que vous avez été en contact avec les deux associations qui s'occupent des gens qui ont cette pathologie? Il y a l'association Vivre avec le CED et une
oui.
Et une CED aussi.
Oui, bien sûr, mais ces gens, enfin ces personnes que j'ai pu appeler, me disent de me tourner vers les médecins qui, par exemple, ont fait le diagnostic des lèvres dans le centre autre. Mais moi j'ai un médecin une fois qui a fait un courrier pour une grande clinique pour que je sois hospitalisée, la clinique m'a refusé.
Pour quelle raison ? Parce qu'ils savent pas quoi faire, c'est ça toujours pareil ?
Oui, je pense. Et comme cette clinique savait que j'avais un grave problème digestif, ils estimaient que ma situation devait être prise en charge sérieusement, mais par la gastro-entérologie. Or, je n'ai pas trouvé de service. Comme on ne peut pas me faire les examens qu'il faudrait faire, parce que vous savez, un gastro-entérologue, quand il travaille, par exemple, il a besoin dans son outil de travail, ça va être une coloscopie. Et moi, on ne peut pas me la faire. Donc, on me laisse, quoi.
Oui, puis en plus, les gastro, de ce que je sais, il y a au moins un an d'attente quand il y a pour avoir un rendez-vous.
Non, c'est pas ça, j'ai pu en voir.
Vous avez reçu quand même.
Oui, mais j'ai, par exemple, je me rappelle, oui, bien sûr, j'ai eu des examens très pointus, y compris des examens neurologiques dans un service très spécialisé. Et bien, quand je suis retournée les voir, ils m'ont dit, écoutez, on ne peut rien. Donc, en gros, ils m'ont dit, on vous fait l'honneur de devenir votre propre docteur. Ce que je fais déjà depuis 20 ans. Donc, je me suis dit, c'était un petit peu abusif, quoi. Moi, j'ai pas fait médecine, j'ai pas de diplôme, mais je me suis quand même prise en main depuis très très longtemps.
Parce que vous n'avez pas eu le choix, malheureusement.
Oui, voilà.
Bien sûr. Bon, moi, sur le plan médical, Karine, je vais évidemment pas pouvoir faire grand-chose pour vous, si ce n'est peut-être lancer un appel à l'antenne. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui souffrent de cette pathologie, ou s'il y a des médecins qui nous écoutent,
Qui
que ce soit qui peut vous aider. Hein, vraiment, surtout.
Oui, qui pourrait m'ouvrir une porte, qui sait, parce que là, maintenant, toute seule, je vois vraiment plus, j'ai plus d'idée du tout. J'ai tout épuisé en ce qui me concerne.
Alors après, je vais peut-être me permettre de vous donner deux, trois petites pistes, si vous le permettez. Oui. Mais là, juste pour terminer cet appel-là, les SMS pour nous joindre, je le rappelle, c'est 739-21, en commençant par le mot nuit. Donc, si d'une manière ou d'une autre, vous pouvez aider Karine, n'hésitez pas, envoyez-nous un texto tout de suite, et évidemment, Hassan et Amandine lui transmettront. Ça, c'est déjà sur ce plan-là, Karine, on va faire le maximum pour vous créer un réseau de gens
excusez-moi, je vous interromps, parce que dernièrement, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un en naturopathie, et cette personne, à juste titre, m'invitait à aller voir un médecin dont je connais la renommée, qui travaille, lui, sur le microbiote, etc., ce qui ne se fait pas en service de gastro. Donc, moi, j'étais partante. Je me dis, bah oui, si je peux encore tenter ça, mais j'y vais, quoi. Mais seulement, je suis fatiguée, je ne suis pas en état de conduire, il faut aller loin. Mmh. Et, enfin, loin, c'est du côté de Rouen. Donc, ça, je ne peux pas y aller, quoi.
D'ailleurs, dans quelle région êtes-vous ? Si quelqu'un,
je suis en Bretagne.
En Bretagne. Voilà. Ça peut aider peut-être quelqu'un si des médecins qui sont dans ce coin-là ou si les gens connaissent quelqu'un. On sait que vous êtes dans ce coin-là. Donc, ça, sur ce côté médical, maintenant, j'ai entendu que vous étiez ouverte aux médecines parallèles et à différentes choses.
Oui.
Et donc, je pense que comme tous les gens qui souffrent d'une maladie importante, vous êtes ouverte aussi à la compréhension des choses.
Oui.
Est-ce que vous connaissez les livres d'Anne Hanselin Schützenberger ?
Non, je ne connais pas cet auteur. Alors, comment dites-vous ?
Ah oui, c'est vrai que ça se prononce un peu, c'est un peu compliqué.
Oui.
Alors Anne, c'est le prénom, ça c'est facile.
Oui.
Hanselin, c'est le premier nom. Et ensuite, c'est Schützenberger. Vous savez, Anne Hanselin, vous tapez déjà ça. Elle a écrit trois livres qui sont assez intéressants.
Oui.
Dont un qui s'appelle Vouloir guérir.
Oui.
Qui explique pas mal de choses. Il y a aussi son livre qui s'appelle Ses enfants malades de leurs parents.
Oui.
Et un livre sur la psychogénéalogie.
Oui.
Parce que je ne connais pas votre histoire, mais il est toujours intéressant quand on souffre de ce genre de maladie d'aller voir ce qui s'est passé dans les trois générations avant.
Oui.
Vous savez que nous sommes le réceptacle émotionnel et pas que. Des trois générations qui nous ont précédés. Et puis, si vous vous intéressez au décodage biologique, c'est un sujet qui, moi, me passionne, c'est-à-dire pourquoi le corps déclenche telle maladie et pas telle autre, je vous invite à découvrir les ouvrages de Christian Flech.
Oui, mais par exemple, en ce qui me concerne, si on m'a coupé les nerfs dans l'abdomen lors d'une opération,
bien sûr, ça, c'est mécanique, c'est bizarre.
Oui, voilà.
Mais dans votre histoire, je crois qu'il n'y a pas que du mécanique.
D'accord.
Il me semble qu'il y a aussi il y a d'autres choses.
Oui.
Et que si ça vous intéresse, je trouve toujours intéressant d'aller creuser du côté du décodage biologique, de l'histoire aussi transgénérationnelle.
Oui.
Et puis, dans les médecines parallèles que vous avez essayées, est-ce que vous avez pratiqué l'hypnose ? Ou est-ce qu'on vous a appris
mais ça ne m'a rien apporté.
Même sur la gestion de la douleur, sur le calme, sur tout ça ?
Non.
C'est dommage, parce que quand c'est bien utilisé, c'est un bel outil, hein, vraiment.
Oui, bien sûr.
En visualisation positive, pour aider le corps, pour tout ça, c'est vraiment...
Oui.
Vous n'avez peut-être pas trouvé la bonne personne.
Oui, je veux bien croire, mais ça dépend de... ça ne m'a rien apporté, quoi. Ouais.
Il ne s'agit pas de vous guérir, bien sûr, mais il s'agit de vous apporter un mieux-être physique et émotionnel.
Oui.
Et c'est quand même un bel outil pour ça.
Certainement, je veux bien, mais peut-être qu'aussi il y a des méthodes qui ont leurs limites, quoi.
Oui, ou des thérapeutes aussi, c'est une autre histoire.
Oui, tout à fait, oui.
Et dans votre histoire à vous, Karine, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des chocs ? Est-ce qu'il y a eu des traumatismes dans votre histoire à vous ou dans l'histoire de vos parents ?
Dans mon histoire, oui, il y a eu un cumul de traumatismes, oui.
Est-ce que vous avez travaillé là-dessus avec un thérapeute ?
Je parle d'un traumatisme physique, hein. Accident, quoi. Il y a eu beaucoup d'accidents.
Et du côté des émotions ?
Je vais vous dire que côté émotion, les émotions, il y en a, mais elles sont conséquentes, quoi.
Non, quand je parle de traumatisme, c'est-à-dire, est-ce que dans votre histoire ou dans votre histoire familiale, il y a eu des traumatismes autres que accidents, mais des traumatismes, je ne sais pas, des agressions, des viols, des deuils, des secrets de famille, des choses comme ça qui ont pu déclencher.
Des deuils, oui, j'en ai eu dernièrement, mais c'est pareil, ils ne sont pas responsables de mon état.
D'accord.
Ouais.
Non, je lance des pistes, hein, parce que quelquefois, des chocs émotionnels importants peuvent déclencher Ça ne veut pas dire que ça crée la maladie. Ça
je connais bien l'histoire de mes problèmes, mais voilà, pour l'instant, je suis quand même dans, comment dirais-je, d'une part, je suis démunie, mais par exemple, la base de la vie, c'est l'alimentation.
Oui.
Et là. Donc, je peux plus du tout m'alimenter normalement et d'une manière équilibrée, quoi. Parce que j'ai quand même attrapé la maladie des laxatifs entre-temps, puisque j'ai été obligée d'user de produits et qui ne sont plus efficaces à présent, quoi. Donc, je suis rentrée dans un processus petit à petit de destruction, mais on m'y a conduit aussi.
C'est quand même incroyable que vous n'arrivez pas à trouver un médecin qui vous accompagne vraiment sur ce chemin.
Ah non.
C'est fou.
Alors si j'ai trouvé par exemple, j'ai rencontré par exemple au niveau psy, j'ai rencontré un très très bon là des personnes qui connaissent vraiment mon histoire, qui sont complètement qui ne comprennent pas qu'on me laisse ainsi, quoi. Mais et qui me disent, nous on ne peut rien faire sur le plan somatique, puisque je pense qu'il y a eu de temps en temps des appels téléphoniques d'échanger, mais elles sont quand même, ces personnes sont assez consternées de ce qui m'arrive, quoi, elles ne comprennent pas. Hein.
Oui, parce que c'est clair que vous aider sur le plan moral, vous tendre une main pour vous aider, vous écouter, ça c'est une chose, mais vous avez besoin matériellement, physiquement qu'on vous aide, quoi, qu'on vous prenne en charge, vraiment. Vous voyez, il y a des gens qui ont réagi là par SMS, mais qui vous renvoient vers l'UNCED, mais on a dit que vous les avez déjà contactés, donc ça ne va pas vous être utile.
J'ai pris des contacts, par rapport à l'erreur médicale, je ne peux plus rien faire maintenant parce que les 20 ans sont dépassés. L'accident remonte à il y a 20 ans, donc je ne peux plus rien faire. Et puis en même temps, j'avais choisi de ne pas déposer plainte parce que ce n'est pas déposer plainte qui m'aurait fait aller mieux. Donc au niveau énergétique, je préférais dépenser d'énergie à me trouver des soins parce que moi j'y ai cru, quoi. Je me suis dit, je vois que maintenant, il faut que j'accepte de voir que ça ne va vraiment pas et qu'il est grand temps. Et, oui, que quelqu'un me... Mais bon, j'ai même imploré ma généraliste et elle me regarde et elle me dit froidement, on peut rien pour vous, quoi.
En tout cas, vous avez fait preuve d'une sacrée force jusque-là, Karina.
Oui, absolument.
Vous pouvez, vraiment.
Oui, je suis fière de moi parce que j'ai pas de famille non plus. Mes Noëls, je les passe seule. Enfin, je me dis, mais je comprends pas, quoi.
Alors, une bonne nouvelle, je sais pas. En tout cas, ça réagit du côté du standard. Oui. Et on a Nathalie qui a le même problème que vous, les mêmes pathologies, et qui est en attente pour intervenir. Ce que je vais vous demander simplement, c'est de m'autoriser à faire une petite pause.
Oui, bien, volontiers.
Je dois passer une pub, et à ce moment-là, je vous récupère après, et on vous met en contact à l'antenne toutes les deux.
Merci, salut.
D'accord ?
Merci.
À tout de suite. Karine, vous êtes toujours là ?
Oui.
Alors, on va accueillir Nathalie qui souhaitait intervenir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Sabine.
Vous avez Karine qui vous entend aussi, hein ?
Oui, mais bonsoir Karine.
Alors dites-nous Nathalie.
Donc moi j'ai appelé parce que cette maladie dont le syndrome de LR dans l'eau, ce qu'on appelle aussi SED, je la connais bien puisque j'en suis atteinte depuis, j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans suite à un accident de transport. Et moi j'ai eu les mêmes problèmes que Karine, notamment pour m'alimenter à une période.
Oui.
C'était vraiment pas simple parce que je pouvais manger que des soupes et des yaourts. Mais c'est ce que je disais à, je sais plus qui m'a accueillie au
standard. Amandine.
Non, c'est pas Amandine, c'est un monsieur que j'ai eu au départ. Hassan, ouais, c'est ça. Mm-hmm. Je sais pas quel traitement elle a, cette dame, ni où elle a été diagnostiquée, parce que moi j'ai une énorme chance. Bon, j'habite en Île-de-France. J'ai été diagnostiquée à Paris par probablement le médecin qui connaît le mieux la maladie en France.
Ah, peut-être que vous pourriez mettre Karine en contact avec ce médecin.
Oui, non, mais je connais, je vois de quoi elle parle, je connais, mais moi j'ai eu 2 médecins aussi dans ma région qui ont fait le diagnostic, donc je sais pas.
Mais au niveau des soins, vous avez quoi ? Parce que j'ai entendu que vous avez subi des opérations et moi on m'a dit qu'il fallait impérativement une autorisation pour subir des opérations.
Oui, mais moi, il y a 20 ans, par exemple, la dernière opération, j'ai eu un grave pépin médical. À l'époque, il n'était pas question de cette pathologie, je ne savais pas. Ça s'est très mal passé puisque j'ai fait une hémorragie, etc. Donc, et après, il y a eu une occlusion. À l'époque, je ne savais pas que j'avais cette pathologie qui semble quand même pas facile à diagnostiquer. Certains disent qu'il y a des tests. Bon, apparemment, non. Alors, je ne sais pas.
Alors, moi, j'ai été diagnostiquée. En fait, c'est sous forme d'un questionnaire.
Oui, moi aussi, oui.
Et je ne sais pas où vous avez été diagnostiquée, mais je ne sais pas.
J'étais. Bah, je ne vais pas nommer les noms des médecins parce j'étais. C'est pas utile. Mais j'étais diagnostiquée par deux médecins, un qui travaille dans une clinique assez sérieuse, et puis quand même un autre qui travaille en milieu hospitalier. Donc j'ai raison de croire, moi aussi, j'étais avec le questionnaire. Mais au niveau des soins médicamenteux, je ne peux pas prendre de médicaments ayant fait une pancréatite, ayant un intestin malade et le foie aussi à présent. Je suis très limitée.
Je ne prends quasiment pas de médicaments. Moi, j'ai les principaux soins, c'est des vêtements de compression.
Oui, je connais. Oui.
De l'oxygénation.
Oui, j'ai aussi.
Et de la kinésithérapie.
Comment est-ce que vous êtes, en dehors de ça, Nathalie, est-ce que vous avez un médecin, vous, qui vous suit, qui vous conseille, qui vous aide, qui vous oriente?
Alors, c'est ce que je dis encore. Moi, je suis sur Paris. Et je vais donner son nom, c'est le professeur Amonet, qui est probablement le médecin qui connaît mieux la maladie. Et moi, j'ai la chance de diagnostiquer là où il est, et il a monté une équipe médicale qui connaît bien la maladie. Et notamment, il y a un psychologue qui s'est spécialisé dans la maladie.
Mais d'après ce que j'ai compris, Karine, c'est pas une aide psychologique dont elle a besoin, c'est vraiment une aide médicale.
C'est ce qu'on me dit aussi au niveau psychologique. On me dit que on me trouve très bien, que j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais là, à présent, moi, j'ai vraiment un très grave problème digestif qui s'est aggravé au fil du temps. Et si personne.
C'est pareil au niveau. Par exemple, moi, j'ai des problèmes au niveau des dents. C'est classique. Hein. Et là où je suis, ils m'ont donné le nom d'un dentiste qui connaît bien la maladie pour que j'aille me soigner. Donc, il faut que j'aille à Reims.
Ce que je vous propose, Karine, Nathalie, c'est qu'on vous mette en contact hors antenne toutes les deux, si vous êtes d'accord l'une et l'autre.
Je veux bien le nom du dentiste parce qu'il est probable que j'aille à Reims pour des raisons digestives. Alors, je pourrais peut-être, si j'arrive à trouver quelqu'un qui m'y emmène,
Sur Paris, moi, le professeur Amonet, il a dressé toute une liste de spécialistes dans différents domaines. Qui sont formés à la maladie, donc qui a priori ne font pas n'importe quoi.
Ce que je cherchais, c'est un service de gastro surtout qui serait susceptible de vraiment de me prendre en charge actuellement.
Karine, si vous le voulez bien, on va vous mettre hors antenne en contact toutes les deux, s'il vous plaît. Je pense que l'expérience de chacune pourra aider l'autre.
Oui.
Et puis Karine, j'ai entendu que vous étiez seule à Noël cette année. Alors là aussi, peut-être s'il y a des gens dans votre coin qui ont envie de vous ouvrir une table ou ouvrir leur cœur.
Facile à dire. C'est pas facile à vivre.
Oh, il y a beaucoup de gens. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus seuls.
Mais quand ça se répète, quand c'est une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Mais quand ça se répète et qu'on est dans une situation, je vous dis, de fragilité, c'est d'autant plus douloureux, quoi. Sinon, il y a plein d'associations qui font. On peut s'inscrire ça et là, et il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne peux rien programmer vu ma situation.
Je sais bien, mais bon, j'espère quand même que quelqu'un vous ouvrira au moins son cœur. En tout cas, merci à toutes les deux de votre appel.
Volontiers.
Ne quittez pas, restez en ligne. Volontiers. Et Hassan et Amandine vont vous remettre en lien ensemble, d'accord?
D'accord, je vous remercie Sabine.
Merci à vous.
Je vous souhaite une belle nuit.
Au revoir Karine, au revoir Nathalie.
Au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et c'est Marie que j'accueille maintenant sur cette Libre Antenne. Bonsoir Marie.
Oui, Maryse.
Ah Maryse, pardon, on m'avait dit Marie.
Vous êtes Sabine.
Je vais devoir fouetter mes assistants, c'est pas bien du tout ça.
Non, c'est pas grave, c'est Maryse.
Alors Maryse, qu'est-ce qui vous amène
tout
ce soir?
Tout simplement, vous êtes Sabine.
Je suis Sabine.
Ah, les présentations... Vous êtes le prénom que j'ai donné à ma première poupée.
Bon, bah dites donc.
Ben oui, et elle était trop belle.
Oh, c'est mignon.
Ben oui.
Alors dites-moi Maryse, qu'est-ce qui vous amène ce soir?
Alors ce qui m'amène, c'est que j'ai vu une psychiatre. Je me suis lancée parce qu'avec vos bons conseils, on doit aller voir une psychiatre. Mon problème, c'est qu'elle m'écoute. Et moi, je sais parler, je sais me raconter, je parle, j'écris. Et il n'y a pas de répondant. Alors, ça dure depuis un mois. Et puis, ce soir, je l'ai appelée pour lui dire que je voulais arrêter. Il y a un écho.
Oui, j'allais vous dire la même chose, mais ça ne vient pas de chez moi. Hein. Est-ce qu'il y a un haut-parleur chez vous ou une radio derrière, peut-être?
Il n'y a rien du tout, non. J'ai tout arrêté.
Bon, bah écoutez.
C'est pas grave. Donc, je l'ai appelée chez elle. Elle m'a dit que je la dérangeais, qu'on était un samedi soir. Je lui ai dit que je voulais annuler, que j'allais pas la revoir. J'avais payé, bon, mon chèque de 320 euros, machin. Bref, elle me dit, c'est pas comme ça qu'on, ça se passe. Il faut que vous reveniez me voir. On se revoit jeudi, comme prévu. Bah, j'ai pas trouvé ça très... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. J'étais un petit peu refroidie.
Bah, y a plusieurs choses que j'entends. Je peux concevoir qu'on n'appelle pas un thérapeute un samedi soir, déjà. Bon,
c'est... Oui, c'est vrai.
C'est... Je peux concevoir que ça puisse être agaçant pour elle. Maintenant, effectivement, est-ce que... Combien de séances vous avez fait en tout ? Combien de fois
alors,
vous êtes allé
je l'ai consulté, pourquoi ? Mon mari est mort il y a plus de 3 ans. Mmh. Il était dans un hôpital en soins palliatifs. Je l'ai suivi pendant 2 ans d'un cancer généralisé à cause d'une prostate mal soignée. En fait, il avait des métastases partout.
Oui.
Il avait souffert de sciatique, il s'était fait opérer du dos. C'est l'arbre qui cachait la forêt quelque part. Et le médecin n'a pas vu qu'en fait, il y avait une prostate qui se dégradait. Donc, comme il souffrait de paralysie, de sciatique et tout le bazar, il était déjà à la maison chez moi pendant plusieurs années. Il souffrait de... Enfin... Bah de sciatique, il ne pouvait plus marcher et tout. J'allais voir un médecin généraliste, c'est pas lui qui y est allé, et on renouvelait des médicaments de plus en plus forts.
Jusqu'à ce qu'on ensuite, découvre qu'en fait...
Je lui ai dit, mon chouchou, il faut que tu ailles passer un IRM, il y a quelque chose qui se passe mal. Donc il est allé passer un IRM à une clinique à côté de chez nous. On a la chance d'habiter à Paris, ça se passe très vite. Et là, ils ont vu à l'IRM qu'il avait des métastases. Parce que mon doudou souffrait d'une... Une prostate, mais moi, j'y connaissais rien en matière de bonhomme.
Donc, j'imagine et qu'était
passé à 4, je sais pas quoi, et le médecin généraliste avait pas vu le coup. Et en fait, on le soignait pour une sciatique, etc. Et en fait, c'était un problème de prostate. Et quand il a passé l'IRM, il était foutu. Il y avait des métastases. J'ai vu un médecin qui m'a dit que ben, de toute façon, il est foutu, votre mari ira en chaise roulante, enfin tout le bazar.
Et ça a duré 2 ans comme ça, derrière, après, c'est ça ?
Bon, derrière, après, les médecins m'ont dit qu'ils me diraient qu'ils lui annonceraient la nouvelle. Et en fait, j'ai supporté tout le truc. Mon pauvre mari, il s'est trouvé à l'hôpital en oncologie. Il ne savait pas ce que c'était que l'oncologie. Je lui ai expliqué que ben c'était parce qu'elle était, il avait un cancer et que enfin bon.
Pourquoi est-ce que c'est pas le médecin qui lui a annoncé ?
Ben il m'avait dit qu'il le ferait, mais il comptait sur moi. Et ils ont rien fait du tout. Lui l'oncologie, il savait pas ce que c'était. Non, les médecins se sont déchargés sur moi.
Oui.
Donc j'ai dû annoncé à mon mari, eh ben mon doudou, c'est un service de cancérologie, et de lui expliquer que il en avait que pour 8 mois. C'est ce qu'on m'a dit.
Ça a dû être
qu'il serait en chaise roulante, et en fait ça a duré 2 ans. Et pendant 2 ans, il est resté à la maison jusqu'à un jour. J'allais faire des courses. Je suis rentrée, il y avait un médecin qui l'avait appelé, lui. Et le médecin en question m'a dit, « Madame, votre mari m'a appelé. » J'étais même pas prévenue. Hein. J'ai trouvé un médecin, mon mari. Il m'a dit, « On l'emmène à l'hôpital. » Ils l'ont emmené à Pompidou. Après, il est allé à l'hôpital Vaugirard. Et ça a duré. À l'hôpital de Gérard, on me dit, il est foutu, il en a pour une semaine. En fait, il en a eu pour plus de 6 semaines. Et j'étais prise en charge par une psychologue. En me disant, madame, depuis 2 ans, vous vous occupez de mon mari.
Oui, bien sûr, c'est beaucoup, ben oui. C'était lourd pour vous.
Et le premier médecin, au bout de 8 mois, il me dit, il en a pour 8 mois. Tu parles, ça a duré presque 2 ans.
Vous savez, c'est très compliqué de donner un temps comme ça. C'est
ben oui, ben oui. Mais les médecins ne m'ont pas prévenu. Ils m'ont donné des temps. Mais le temps, c'était le temps qu'on s'accordait à nous deux. Et avec nous deux, on a beaucoup parlé. Parce que mon mari a été très violent. Je suis une femme battue. Il était un violent domestique. Mais en même temps, c'était un grand homme. Il m'a appris plein de choses. On a fait un tour du monde en bateau. Il m'a emmenée faire des choses que moi, j'aurais jamais faites sans lui.
Et est-ce que cette période-là, avant qu'il parte, a été l'occasion de d'échanges et de pardon ?
Absolument.
D'accord.
Il m'a demandé pardon que la veille de sa mort. J'allais le voir tous les jours à l'hôpital. Et il m'engueulait. Parfois. Il dit, arrête de bouger. Fais pas ci, fais pas ça. Mais le temps de sa maladie à la maison, il me disait, pourquoi tu fais tout ça pour moi? Je le mérite pas. J'étais dure avec toi. Il me dit, je t'admire. Mais je lui dis, mon doudou.
Ça a dû vous faire du bien,
c'est de l'amour.
Ça a dû vous faire du
oui.
bien.
Mais c'est que la veille de mourir qu'il m'a demandé pardon. Mais parce qu'il n'en pouvait plus. Je suis allée voir un médecin, je lui ai dit, il suçait des petits trucs dans la bouche uniquement pour s'hydrater, il bouffait des yaourts. Enfin bon, j'ai supporté tout ça pendant des années. Donc j'ai décidé d'aller voir une psychiatre. Parce que pendant mon temps à l'hôpital, on m'a pris en charge. Mmh. On voyait tout ce que j'avais fait pour lui. Mmh. Et comment j'y allais tous les jours, mais il était sous morphine, je ne pouvais pas le voir et je revenais tout le temps. J'avais la chance d'habiter à côté. Et du coup, j'ai vu une psychologue. Et je parlais avec elle. Mais elle ne comprenait pas comment j'étais aussi forte. Parce que je prenais sur moi, c'est
mais
vrai.
Souvent, d'abord c'est l'amour, et puis souvent quand on accompagne quelqu'un comme ça en phase terminale et quelqu'un qui va très très mal... On se met soi-même en mode en pilote automatique, pratiquement.
Absolument.
On verrouille tout pour tenir debout, parce qu'il n'y a pas le choix, c'est juste ça, quoi.
Absolument.
Et oui, il faut
c'était tenir. Juste ça. J'étais dans l'action, je fonçais. Et puis ça a duré après. J'ai bâclé la succession en 6 mois, et Dieu sait si c'était compliqué. Et j'étais dans un mode...
pilote automatique.
Qui
quoi.
Me surpassait.
Oui, bien sûr. C'est souvent comme
que
ça.
Moi-même.
C'est après que ça lâche.
C'est moi-même. J'étais pas consciente de ce que je pouvais faire, mais je le sentais au fond de moi. Par contre, de ma famille, de tout le monde, j'étais toute seule, complètement abandonnée.
Et pourquoi ça?
Je sais pas.
Je sais pas.
La peur. Ils avaient d'autres choses à faire.
La maladie effraie quelque part aussi, quelquefois.
Oui, bien sûr.
C'est quand même triste de ne pas avoir de famille dans ces moments-là.
Oui, mais ce n'était pas grave. J'étais dans le mouvement.
Vous avez
j'étais tenu. Dans l'action. J'étais comme dépassée. Enfin, il y avait une énergie en moi que je n'ai rencontrée qu'à ce moment-là. Mais que je savais que j'avais en moi. Mais que tout le monde, tout le temps, m'avait rabaissé. M'avait complètement... je ne sais pas comment dire. Les gens n'avaient pas compris que je pouvais être aussi forte. Et là, je me suis révélée dans une force intérieure que je sentais en moi et qui s'est révélée. C'est fou, ça.
Alors, ce que j'entends, Marie, c'est qu'à ce moment-là, à l'hôpital, vous avez rencontré une psychologue.
Oui.
Avec elle, est-ce qu'il y avait un échange? Est-ce que ça vous faisait du bien?
ça me faisait du bien dans le sens où je parlais, mais qu'elle ne comprenait pas que j'étais aussi bien. En fait, c'est moi, quelque part, qui les sidérais. De la façon dont je prenais les événements. La chose. Ce qui arrivait, ce qui devait arriver. Et mais elle m'a dit quand même, vous devriez aller voir une psychiatre, une psychologue. Elle m'a donné 3 noms. Et c'est seulement 3 ans après, c'est-à-dire il y a 1 mois maintenant, mon mari est décédé en 2015, en juin. Je suis allée voir une psychiatre. Alors je raconte tous mes trucs. Bon, mon mari était ce qu'on appellerait un violent domestique, oui. Il m'a battue, mais mon père me battait aussi. C'est le premier homme que j'ai connu, j'étais vierge. Je l'ai aimé, il m'a appris des choses, je lui ai appris des choses. Moi, je lui ai appris la musique, les petits oiseaux, la créativité. Avec lui, j'ai quand même fait un tour du monde en bateau, on a construit des bateaux.
Et Marie, pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin d'aller voir une psy il y a un mois ou deux? Pour quelle raison, 3 ans après?
Parce qu'il y a 3 ans, à l'hôpital, on m'a dit que je devrais être suivie.
Oui, mais
parce que j'avais été battue par mon père, par mon mari, que je m'en suis sortie.
D'accord.
Qu'il fallait que je continue à parler.
Qu'il fallait faire ce travail-là.
Être suivie.
Mais là, pourquoi d'un seul coup, il y a 2 mois ou il y a 1 mois, alors que pendant 3 ans, vous n'avez rien fait? Qu'est-ce qui a été un facteur déclenchant pour vous donner l'envie d'aller travailler avec un thérapeute?
Parce que j'ai rencontré, après la mort de mon mari, je vais à un parc à côté de chez moi, je jouais au ping-pong, j'ai appris depuis à jouer au ping-pong, il y avait des tables de ping-pong, et puis parce qu'il y avait des fruits qui tombent des arbres, des murs, c'est l'époque.
Et mes petits-enfants. Je suis pas sûre que les murs poussent sur des arbres, moi. Je suis pas spécialiste.
Non, pas des murs, des prunes, des.
Oui, d'accord.
Bon. Mes petits-enfants m'ont dit, mamie, il faut que tu te sortes, papy est mort, va chercher des prunes, parce qu'avec eux, en juillet, août, on va chercher des prunes au parc Georges Brassens, des mirabelles, des prunes, et puis mamie, elle fait des confitures. Et puis mes petits-enfants, ils me disent, mamie va au parc. Alors je suis allée chercher des prunes. Et puis j'ai rencontré, c'était près des tables de ping-pong. J'ai discuté avec les gens qui jouent au ping-pong. Puis j'ai ramassé mes prunes. Et puis les gens m'ont dit, très sympathique, de 7 à 90 ans, j'ai fait du ping-pong pendant 2-3 ans. J'ai appris le ping-pong, tout le monde m'a aidé, tout le monde m'a appris à jouer, et puis je me suis acheté une belle raquette à moi. Donc au ping-pong, j'ai joué, comme ça je me suis mise au ping-pong, c'est la vie, grâce aux prunes dans les arbres. Bon, bref, ces gens-là sont bien gentils, mais il n'y a pas de... conversation.
On s'est un peu perdu en route, la Maryse. Ma question était, pourquoi est-ce que vous êtes allée voir une psy subitement il y a un mois ou deux?
Eh bien, parce que les gens du ping-pong, ils sont bien gentils, mais je n'ai pas de conversation personnelle, très intime. C'est du superficiel. On joue au ping-pong, tac, 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 paf, ça s'arrête, on rentre chez soi. Je cherche des gens avec lesquels je puisse converser de façon plus intime. Alors, j'ai repris le petit papier de la psychologue de l'hôpital et j'ai appelé une psychiatre.
C'est là que je pense que vous avez peut-être fait un mauvais choix. On en reparle dans un instant, si vous voulez bien, Maryse. On fait une pause, le temps des infos, et je vous récupère de l'autre côté.
D'accord.
D'accord. Merci, à tout de suite.
D'accord. Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne. Antenne. Sabine Marin.
Encore jusqu'à 1h du matin, je vous rappelle que tous les sujets ici peuvent être abordés en toute sincérité. Tout ce qui vous touche, tout ce qui vous intéresse, venez m'en parler. Amandine et Hassan attendent vos appels au 39-21. A tout de suite sur l'antenne.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Maryse, vous êtes toujours là ?
Oui.
Oui, juste avant les infos, j'étais en train de vous dire que je pense que je comprends votre démarche de voir une thérapeute, mais je pense que ce n'est pas la bonne thérapeute que vous avez choisie. Si vous avez envie de parler, d'échanger, c'est pas une psychiatre qu'il faut aller voir. Je pense que peut-être vous ne vous êtes pas renseigné sur le type de thérapie qu'elle vous proposait. Et si je comprends bien ce que vous me dites, vous, ça ne vous convient pas de parler à sens unique.
Absolument.
Vous avez besoin d'un échange.
Absolument.
Et donc, dans ces cas-là, c'est plutôt une psychologue, une psychothérapeute que vous devrez aller voir, pas un psychiatre.
Oui.
Quelqu'un qui vous propose une thérapie différente et qui soit plus dans le dialogue.
Ben oui, comme vous le faites.
Alors moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je suis hypnothérapeute. Ça, c'est une autre forme d'accompagnement thérapeutique. C'est un dialogue aussi, mais c'est un dialogue différent.
Et vous avez un cabinet ?
Moi, je dialogue avec l'inconscient. Je ne mélange pas toutes les choses, Maryse. Je ne suis pas là pour parler de ma pratique hors antenne. Simplement pour vous dire que moi, la technique que je connais bien, c'est l'hypnose. Il n'empêche que pour vous, une thérapie avec une psychologue ou une psychothérapeute serait beaucoup plus adaptée qu'avec une psychiatre.
Absolument.
Et donc, par contre... effectivement, ça je vous l'ai dit, on ne téléphone pas un samedi soir à un thérapeute pour lui dire « j'y aime plus », ça c'est clair. Vous auriez dû lui dire la dernière fois que vous l'avez vu, ou effectivement, retourner la voir pour lui dire clairement « non, j'arrête, voilà ». Simplement, sans accusation, sans agressivité, simplement lui faire savoir que vous, ça ne vous convient pas.
Mais elle l'a senti. Bah, et oui, après, je lui ai parlé si elle travaillait sur les rêves. Parce que tous mes rêves, je les vois, j'adore dormir, je dors très bien parce que j'arrête pas de rêver. Mmh. Je me souviens de mes rêves. Mais elle me dit, oui, bien sûr, les rêves. Bon, mais c'est tout. Puis elle m'a fichu la porte.
Oui, bon, il est...
Elle a senti que je ne voulais plus rester avec elle. Et comme j'avais abordé le truc des rêves, et elle m'a dit, mais oui... Non, oui, je ne sais pas, oui. Ça ne se fait pas. Oui, vous savez, j'ai eu deux cancers, je m'en suis sortie. J'ai fait 4 mois d'hôpital. Enfin bon, ça, je ne vous en ai pas parlé. Mais c'est des choses qui réveillent. Ben oui. Bon, bref, j'ai suivi plein de trucs dans ma vie. Mm-hmm. Donc là, c'est vrai que... Bon, j'ai 67 ans. La foi m'a sauvée. Je me suis inscrite au mouvement des chrétiens, des retraités. Il n'y a que des vieilles gens pour moi. Je vais peut-être leur apporter quelque chose parce que je pense que dans ma vie, le but, c'est d'être utile. Je ne sais pas.
Maryse,
j'ai la foi pour me réfugier ou moi, je dois me soigner. En fait, est-ce que j'ai besoin de me soigner ou pas ? Je ne sais pas. J'ai besoin de parler, ben voilà, c'est tout.
J'allais vous le dire, Maryse, ce n'est pas vous soigner, c'est d'avoir un échange avec quelqu'un qui vous fait du bien. Là, ça ne s'est pas fait avec cette personne-là. Ce n'est pas grave, c'est la vie. Il y a quelquefois, on a des affinités, quelquefois, on n'en a pas. Quelquefois, on trouve le bon thérapeute ou la bonne thérapie, quelquefois pas. Là, je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Sur le plan humain, absolument. Vous n'avez pas accroché avec elle. Sur le plan de sa technique, c'est pas ce qu'il vous faut.
Non.
C'est pas grave. Vous continuez à avancer. Vous allez frapper à une autre porte. Et je pense que vous avez un petit chemin à faire et que ça serait bon pour vous d'avoir un véritable échange avec quelqu'un qui vous convient. Vous êtes en région parisienne. Il y en a du monde. Il y a des gens bien.
Bah oui.
Mais vraiment, tablé,
parce qu'en plus, mon mari est mort. Je suis allée au parc, comme je vous ai expliqué, pour aller faire du ping-pong. Et puis là, j'ai trouvé un gars et je sais pas pourquoi je suis tombée amoureuse. Ça fait 3 ans.
je suis amoureuse de lui, mais lui, il ne me convient pas du tout.
Maryse, on s'égare vraiment. Là, vous partez un peu dans tous les sens. C'est pas évident pour nous dessus. Je pense que pour les auditeurs, ça ne doit pas être évident non plus.
Non plus.
Je pense vraiment... Allez
c'est
chercher.
La vie.
Allez, oui, c'est ce qui fait la vie aussi, c'est vrai.
C'est pour ça que je vais me soigner. Je tombe amoureuse d'un mec qui n'est pas du tout fait pour moi. Mais c'est l'antipode de tout ce que je pouvais. Sauf qu'il est gentil. Et il n'y a rien d'autre. Ce serait un psycho machin-chose.
Non, justement, pas machin-chose. Un psychologue ou psychologue ou psychothérapeute.
Mais tout se mélange parce que la vie, tout se mélange, tout se bouscule. On vous apporte des choses et puis d'un autre côté, on se cherche et...
Eh bien, c'est pour ça.
On finit par trouver... Et j'ai la foi, c'est ce qui me sauve.
Eh bien, tant mieux. Je pense que vous allez finir par trouver quelqu'un, un bon thérapeute qui va vous aider à avancer. D'accord, Maryse ?
Oui, vous êtes gentille de m'avoir écoutée.
Je vous embrasse.
Bon, ben moi aussi.
Bonne soirée.
Merci.
Au revoir, Maryse.
Au revoir.
Andreas ? Coucou. J'ai Andreas qui était dans la lune, qui n'a pas réalisé que... Une petite virgule. Allez, merci.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et j'accueille Brigitte maintenant. Bonsoir à vous, Brigitte.
Bonsoir, Sabine. Ça fait bizarre d'entendre la radio dans un téléphone.
Oui.
Oui.
D'accord.
Oui, comme j'entendais l'échange que vous aviez dans le combiné, je trouvais ça assez marrant.
Ah oui, c'est vrai, quand on vous met en attente, vous avez la radio dans le téléphone, oui.
Tout à
c'est
fait.
C'est ça que vous dites, d'accord.
Okay. Voilà, vous êtes bien installée dans vos nouveaux studios.
Ah écoutez, on est pas mal. Pour tout vous dire, il y a juste un petit truc, moi, qui m'enquiquine, c'est qu'on nous a mis la clim au-dessus de la tête, ce qui fait qu'on a la clim sur la nuque. Et je pense qu'un jour, elle aura ma peau, cette clim. Mais bon, c'est un détail. Le reste est formidable, on a de très beaux locaux, on est très très bien.
Bah, c'est bien.
Mais je me méfie toujours de la clim. Moi, pour la voix, c'est pas l'idéal.
C'est vrai.
Alors Brigitte, dites-moi un petit peu ce qui vous amène ce soir sur cette libre antenne.
Alors moi j'avais envie de parler de la présence extraordinaire d'une amie en fin de vie.
Oui.
Donc j'ai une amie qui était collègue aussi de travail. Et elle était partie à la retraite il y a 3 ans, après une longue carrière. Mmh. Et puis, elle était heureuse de partir en retraite. Elle avait plein de projets. Donc, c'était génial, quoi. Et un an après, elle m'appelle et puis elle me dit, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. J'ai une récidive de mon cancer du sein.
Ouais.
Qu'elle avait eu il y avait 13 ans. Et elle me demande, elle me dit en même temps, prépare-toi à préparer la célébration de mes obsèques.
Pourquoi elle savait, elle était en phase terminale, c'était irrémédiable.
Non, c'était pas annoncé, non.
Ah bon.
Mais dans sa tête, elle s'est dit voilà, ça revient, donc c'est fini quoi.
Est-ce qu'elle était entourée, est-ce qu'elle avait un mari, des enfants, des amis?
Oui, elle a un mari, des enfants,
ouais.
Elle a beaucoup d'amis aussi, ouais. Alors c'est vrai que pendant 2 ans, donc elle s'est battue, hein. Elle a même eu la joie du coup de connaître un de ses petits enfants.
Oui.
Elle est naissante, donc ça, je crois qu'elle s'est battue parce qu'elle savait que sa fille était enceinte. Je crois que ça lui a donné un.
Ça se tient quand on voit exactement, oui, bien sûr.
Oui.
Et vous, comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle?
Alors, donc, elle m'avait appelée, et puis, bon, moi, je la connaissais parce qu'on était collègues de travail, plus amis, quoi. Et puis, moi, je ne l'avais pas accompagnée quand elle avait eu le premier cancer. Je ne l'avais pas accompagnée parce que je l'avais connue quand j'étais étudiante. Et puis, après, nos routes se sont séparées. Et quand je suis revenue sur le même lieu de travail, on s'est retrouvés comme si on s'était pas, enfin, on s'était quittés hier, quoi.
Ouais. Les vrais amis, c'est souvent ça, d'ailleurs.
Ah ouais, c'était assez touchant, quoi. Et donc elle me l'a appris, donc il y a 2 ans. Et septembre dernier, donc j'ai une autre amie qui m'a dit, elle est hospitalisée. Parce qu'elle a fait un malaise chez elle, et puis donc elle est hospitalisée. Donc tout de suite, le lendemain, je me suis rendue à l'hôpital en me demandant si je pouvais venir, bien sûr, mais bon, il n'y avait pas de souci. Et donc elle était hospitalisée. Bon, moi j'ai trouvé dans un état, je l'avais pas vue depuis un moment puisqu'on communiquait beaucoup par téléphone.
Oui.
Et donc je l'avais pas vue. Donc c'est vrai qu'elle était très affaiblie. La maladie l'avait beaucoup abîmée physiquement. Et donc elle était dans un état pas possible. Et puis au départ elle me dit j'ai eu une phlébite. Alors je me dis si c'est la phlébite, ça y est, après dans quelques temps ça va repartir quoi. Moi j'y croyais, on y croyait tous, surtout sa famille, je crois qu'ils y croyaient vraiment quoi. Ils disaient si elle va repartir, non pas avec un cancer guéri, mais pour pouvoir rentrer à la maison.
Oui.
Donc on a essayé chacun et la famille et les amis, chacun à sa façon, on a apporté de l'aide. Et moi, c'était plus peut-être avec un peu d'humour, parce que on s'est raconté des anecdotes vécues dans son lieu de travail, tout ça.
Mais ça fait du bien aussi dans ces moments-là.
Voilà. Et ce que je voulais dire, quand je vous disais tout à l'heure que c'était sa présence qui m'avait vraiment... Alors qu'elle était dans la maladie, elle avait des délicatesses. Tout le temps, elle s'inquiétait de tout. Elle voulait savoir si ça me gênait pas de venir la voir, si j'avais peut-être que j'avais autre chose à faire. Mmh. Elle se demandait comment j'allais rentrer le soir. Alors que moi, je venais pour elle, et en fin de compte, elle était pleine de délicatesse à mon égard, quoi.
Elle était prévenante.
Et comme avec les autres, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça qui m'a surpris. Et quand son mari, pour les obsèques, parce qu'elle est décédée fin septembre, et son mari a dit qu'elle avait une présence, un charisme de relation, et c'est vrai, en fin de compte, c'était ce charisme-là qui rayonnait même dans la maladie, quoi.
Quand je vous entends, c'est Brigitte, c'est comme si le fait de l'avoir accompagnée, finalement, c'est elle qui vous a appris quelque chose.
C'est justement ce que j'allais dire, c'est... Et en fin de compte, le fait qu'elle soit partie, c'est pas son absence qui me manque, c'est cette présence qu'il y a eu.
Oui,
je ne sais pas si je m'explique bien.
Bien sûr. Est-ce que vous avez pu parler avec elle de la mort et de son départ? Est-ce que c'est un sujet était tabou ou pas du tout entre vous?
Non, pas du tout, parce que par contre, on l'a vu décliner, plus ça allait. Au bout de deux semaines qu'elle était hospitalisée, les médecins ont dit que, on dit à la famille, c'était fini, qu'ils partaient sur un traitement palliatif, quoi. Donc elle avait une tumeur au cerveau, et donc la tumeur avait grossi et elle pouvait rien faire, quoi. Et moi, je suis venue donc un lundi, parce que je passais tous les deux jours à peu près, sauf le week-end où je n'allais pas, parce que je trouvais que c'était la famille. En tant qu'amie, je n'allais pas le week-end. Donc j'allais la semaine. En principe, quand son mari travaillait, donc c'était plus... Et puis on se croisait après, quoi. Et donc, je suis arrivée un lundi, et elle m'a dit à un moment, je vais mourir.
Oui.
Donc, je n'ai pas eu de mots, je n'ai pas pu dire quelque chose, je n'avais rien à dire de toute façon. Je lui ai juste pris la main, quoi.
Mais rien que ça, c'est déjà formidable. On n'est pas forcément obligé de parler, vous savez, quelquefois. Quand on n'a pas les mots, eh ben, c'est pas grave, on a l'amour. Le soutien, la présence, rien que ça. Ça a dû être un moment extrêmement fort entre vous.
Oui, tout à fait, oui. Et puis, après, je savais que c'est quelqu'un qui a la foi, donc elle le vivait aussi. Donc, j'ai essayé, je lui avais apporté une petite médaille. Tout de suite, elle a dit à ses enfants, vous m'apportez une petite chaîne pour que je puisse la mettre à mon poignet. Des petites choses comme ça, je pense que c'est ça aussi. Comme au-delà des mots, justement, c'est peut-être par des petits gestes. Elle m'a apporté énormément sur ce temps-là. Je pensais pas, parce qu'au départ, je me disais, j'y vais, je sais pas ce que j'aurais à dire, et en fin de compte, j'avais rien à dire spécialement, quoi.
C'est ça qui est important de faire passer aussi comme message. Souvent, quand quelqu'un est sur le point de partir ou est parti, il y a plein de gens dans l'entourage qui disent, oui, mais alors, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Quelquefois, rien. Juste être là, et c'est ça que vous dites aujourd'hui qui est important. Si on sait pas quoi dire, c'est pas grave, on n'est pas forcément obligé de trouver les bons mots. Quelquefois, on les a, quelquefois, on les a pas, mais simplement être là. Comme vous dites, tendre une main.
Oui.
Passer un moment, même si c'est dans le silence. Et je suis sûre que vous l'avez aussi apporté beaucoup dans ces moments-là.
Oui, après, il y avait d'autres amis qui étaient là. Et puis, je pense que la plupart avaient bien compris hein, que, bon, que de toute façon, c'était plus la peine de lui dire tu vas te battre, quoi, parce que c'était plus possible. De toute façon, elle était. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un épuisé comme ça, quoi. Elle pouvait plus, hein, vraiment. Je pense que sa famille pensait qu'elle allait encore se battre, ce qui est un peu, bon, peut-être légitime. Mais nous, les amis, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même rôle en tant qu'amis que famille, quoi, je pense aussi.
Ben, c'est pas les mêmes liens, bien sûr. Et comment vous vous sentez-vous maintenant depuis qu'elle est partie ? C'est récent, vous m'avez dit fin septembre, c'est ça ?
Fin septembre, oui.
Oui, donc c'est encore.
Ah ben, moi, ça va, parce que je la sens présente de toute façon. Je la sens là, ben voilà. Mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est ben, son mari, quoi. Bon, au départ, moi, je les ai laissés après les obsèques. Bon, moi, j'ai été amenée à les aider à préparer la fameuse célébration de ses obsèques qu'elle avait déjà demandé. Donc, j'ai participé à cette célébration, à cette préparation. Et puis après, ben, c'est vrai que je l'ai laissé un peu tranquille en famille. Et après les vacances de la Toussaint, je me dis, tiens, je vais envoyer un petit SMS pour dire que je pense à lui. Mm-hmm. Et la réponse, j'étais anéantie par sa réponse, parce qu'il était à la fois et dans la colère en disant, enfin, et dans la colère et dans la, ce qui est normal, hein, dans la colère et dans la dépression, quoi.
Ben oui, vous connaissez les différentes phases du deuil, j'en parlerai régulièrement.
Oui, je vous écoute souvent, oui.
Donc peut-être c'est important de lui expliquer ça à lui et lui expliquer qu'on fait des allers-retours dans ces étapes-là. La colère, c'est l'une des premières phases, c'est le choc, le déni et la colère. Non, c'est pas possible. Après, on cherche un coupable. C'est le médecin qui n'a pas fait que, c'est la vie qui n'est pas juste, etc., etc. Et puis après, on avance, on est dans la résignation, puis dans la dépression. Mais on peut remonter. C'est ça les fameuses vagues dont je parle régulièrement.
Ah oui.
Il peut être avancé jusqu'à cette phase de dépression et remonter dans la phase de colère. Et peut-être vous pouvez l'aider en lui expliquant ça, en lui expliquant toutes les phases qu'il va traverser, lui disant bien sûr que c'est normal, c'est humain. Est-ce que vous avez réussi à lui parler, à lui répondre à ça après ce SMS ?
Ah ben après ce SMS, bon moi quelques temps après je l'ai appelé.
Oui.
Bon, il était déjà mieux au téléphone, mais il était dans une réunion, donc il a quitté la réunion pour répondre à mon appel, donc plutôt que j'aille le voir, quoi, parce que là c'est vrai par téléphone c'est pas forcément.
Ben si il est ouvert à ça, si ça peut lui faire du bien, et si vous aussi vous êtes d'accord pour aller lui parler, ça me paraît bien, ouais.
Je me posais la question de savoir est-ce que c'est mon rôle, est-ce que c'est à moi de le faire. Enfin bon, il a sa famille, moi j'étais l'amie de son épouse, est-ce que.
J'aurais tendance à vous dire, on s'en fiche un peu du rôle. C'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle dans ces cas-là.
Bah oui, bien sûr. Ouais, ouais.
Quand bien même vous seriez sa gardienne d'immeuble ou sa commerçante d'à côté, vous êtes un être humain à un autre être humain. Ouais. Et si vous sentez que vous avez besoin et envie de lui parler pour l'aider, je pense qu'il sera au contraire extrêmement reconnaissant. Ça, quel que soit le titre que vous ayez, que vous soyez famille, ami, voisin, c'est pas important ça. L'important c'est ce que vous êtes vous. Est-ce que vous lui apportez ?
Je pense qu'ils ont beaucoup, enfin la famille a beaucoup apprécié notre présence, la présence des amis là, durant la fin de vie de sa femme. Là. Lui, il a beaucoup apprécié notre présence même, voilà.
Ben, je pense que c'est une grande chance quand on est dans une souffrance telle d'avoir aussi des gens bien autour, de ne pas être seul. Quoi. Bien sûr qu'ils ont apprécié ça. Et vous pourriez peut-être aussi lui conseiller les quelques ouvrages que je recommande régulièrement sur le deuil, vous savez. Il y a des livres qui font du bien.
Hein. Ah oui. Ça, par contre, ouais, je vais peut-être. Vous les mettrez peut-être sur votre.
Oui, je les mettrai sur ma page ce soir ou demain matin. Il y a trois auteurs moi, que je recommande. J'en parlerai plus en détail sur ma page, mais il y a toujours, bien sûr, Jean-Jacques Charbonnier. Il y a Anne Hansen-Schützenberger, dont je parlais tout à l'heure, qui a aussi écrit sur le deuil. Et il y a Elisabeth Kubler-Ross. Mais je mettrai les coordonnées plus précises des livres que vous pourriez lui conseiller ou lui offrir, peut-être pour Noël, un de ces livres-là.
Bah oui, bien sûr, ouais.
Hein, des livres qui apaisent, qui accompagnent sur ce chemin-là. Et puis, voir, est-ce qu'ils ont des enfants ?
Oui, il y a des enfants et des petits-enfants.
Et peut-être voir aussi avec lui comment ça se passe ? Comment vont les enfants de cette femme, aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en détresse encore plus profonde ? Est-ce qu'au contraire, ils peuvent aider leur père ?
Moi, j'ai contact avec la fille, moi. Par contre, le fils n'est plus loin, mais la fille, on se communique très facilement.
Ouais. Et comment elle va, elle?
Elle est dans les étapes aussi, hein. Elle trouvait ça vraiment injuste, le départ de sa mère. Voilà, comme le petit a dit, elle l'aura pas vu marcher alors qu'il fait ses premiers pas.
Alors peut-être qu'à elle, vous pouvez lui proposer d'aller faire un petit geste symbolique. Avec le petit, aller planter un arbre, par exemple.
Ah oui.
Ou aller, si elle n'est pas à la campagne, aller acheter un arbre en pot. Quelque chose qui pourrait représenter symboliquement une pensée pour sa mamie.
Oui, tout à fait. Ouais.
Ça peut l'aider, elle, à faire un petit travail de deuil et puis à créer un lien aussi entre la grand-mère et le petit-fils qu'elle ne verra pas grandir. Que ce petit-fils sache qu'il y a une grand-mère quelque part aussi.
Bien sûr.
Et avec les enfants, il y a des petits gestes symboliques comme ça qui n'ont l'air de rien, mais qui sont vraiment importants.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Ou ça peut être un nounours. On peut aussi aller amener un nounours dans la chambre de l'enfant en disant « voilà, tu vois ce nounours-là, mamie avant de partir, elle l'a laissé pour qu'il veille sur toi. »
Ah oui.
Mmh. Et celui-là, il n'est pas comme les autres, celui-là. C'est vraiment celui de mamie. Vous voyez, des petites choses comme ça qui peuvent à la fois aider la maman et puis créer quelque chose de rassurant pour le petit. Vous avez un sacré rôle dans cette histoire, dites donc, c'est formidable ça.
Je pensais pas en plus.
Quelquefois la vie nous met face à des situations et en fait,
de toute façon, oui, voilà.
C'est comme un test un petit peu.
Moi je crois beaucoup dans ma philosophie de vie, je crois beaucoup à l'importance des rencontres qu'on fait.
Ah, moi, je suis persuadée qu'il n'y a jamais de hasard. Jamais.
Ah oui. C'est vrai que ces rencontres-là...
Même les rencontres négatives nous apprennent quelque chose, en fait. Elles sont moins agréables à vivre, mais elles sont toujours là pour nous dire quelque chose sur nous et sur ce qu'on a à comprendre et à apprendre. Et puis, quelquefois, voilà, il y a des rencontres totalement inattendues, il y a des rôles qu'on se met à jouer qu'on n'aurait jamais imaginé jouer un jour. Et quand on les accepte, c'est extrêmement enrichissant, parce que ce que j'entends dans votre histoire, c'est que vous avez grandi aussi beaucoup, là, depuis quelques mois.
Mais tout à fait, je lui en suis vraiment reconnaissante, oui. Parce que nous-mêmes, dans ma famille, on vit aussi, j'ai un beau-frère qui est très âgé, et qui est passé par ces phases-là, même soins palliatifs. Mmh. Il est resté, donc il était sur Paris, il est resté 6 semaines, donc on pensait que c'était vraiment la fin. 6 semaines en soins palliatifs, et puis comme il était toujours en vie, mais les soins palliatifs ont dit, nous, on ne peut pas le garder, rentre chez lui. Et donc, il est chez lui, il a une vie, il n'a plus de traitement, hein, il n'a pas de grand traitement, il est en surveillance, mais il est à l'hôpital, à la maison, quoi.
Et là aussi, vous intervenez un petit peu ?
Moi, j'interviens plus auprès de ma sœur, parce que c'est elle qui est... c'est elle qui s'en occupe, c'est son mari.
Bien sûr.
Mais
c'est elle qui a besoin d'une épaule.
Ah oui, ouais, elle a vraiment besoin. C'est lourd, quoi.
Et j'ai l'impression qu'elle est chouette, votre épaule, hein, Brigitte. Elle est solide.
Je sais pas si elle est chouette, mais elle est disponible toujours.
Mais ça, c'est formidable.
Elle est disponible, ouais. Mais je retiens les idées, là, pour le petit-fils, là.
Il a quel âge, ce petit bout ?
Eh ben, il a 15 mois.
Ah oui, il tient debout maintenant.
Ça y est, ouais.
Les premiers pas,
il promène. Ouais.
Et oui, puis il y a des émotions qu'il doit sentir, parce qu'un enfant s'imprègne de l'émotion de sa maman.
Bah oui, bien sûr.
Même si intellectuellement, il ne comprend pas forcément tout ce qui se passe, il comprend qu'il y a du chagrin dans cette famille. Il comprend qu'il y a une mamie qui n'est plus là.
Tout à fait.
Donc c'est important d'accompagner sa maman pour qu'elle mette des mots là-dessus, et peut-être une action symbolique aussi. Ça, c'est vrai que c'est important.
D'accord.
Maryse, vous êtes formidable.
Ah, moi, c'était Brigitte, mais bon.
Brigitte, pardon, excusez-moi. Oh là,
Non, mais c'est pas grave, j'ai pas deux prénoms, alors je vais peut-être prendre le deuxième, Marie.
C'est pas ça, c'est qu'en fait, j'ai un écran sous les yeux avec les prénoms des gens qui sont passés. Et donc, mes yeux sont fixés sur le prénom Maryse et j'étais en train de penser à vous en même temps. Pardonnez-moi, c'est n'importe quoi.
Non, il n'y a pas de souci.
J'ai plein d'écrans avec plein de noms partout.
Il y a une émission il n'y a pas très longtemps où vous changez de prénom à tous les 5 minutes.
Vous vous souvenez, c'était pas ma soirée.
Oui, c'était pas.
Ils m'ont tout fait ce soir-là. Ah, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Oui. C'est pas le plus important. En tout cas, vraiment, je vous trouve formidable et je trouve que les gens qui ont croisé votre route ont eu beaucoup de chance.
Ben, merci.
Et en même temps, ce qui est intéressant, une fois de plus, dans votre témoignage, c'est que en donnant aux autres, ça vous a tellement apporté à vous.
Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça.
C'est ça qui. C'est ça.
Mais
qui,
je pense qu'elle le voulait de toute façon.
Qu'elle voulait quoi?
Elle le voulait, ça. Enfin, je pense cet que jusqu'au bout. Ouais, je pense que jusqu'au bout. Ben voilà, c'était sa vie, ouais. Je pense qu'elle voulait. C'était inconsciemment peut-être, mais c'était, ça faisait partie de sa vie, ouais.
Merci Brigitte pour ce beau témoignage.
Je vous en prie, merci à vous aussi Sabine.
Je vous mets au plus tard demain sur ma page les références des livres qui pourraient vous intéresser et les intéresser aussi, notamment son
livre. D'accord. D'accord, merci beaucoup.
Je peux vous embrasser très fort ?
Oui, moi aussi.
Bonne soirée.
Au revoir.
Merci de votre appel, au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Bonsoir Maria.
Bonsoir, Sabine.
Bienvenue sur cette antenne, Maria.
Je suis un peu émue. Je vous écoute tous les soirs. J'écoute la Libre Antenne et j'ai besoin de vos conseils.
Je vous écoute.
Parce que, j'ai perdu ma soeur jumelle en septembre et j'arrive pas à m'en remettre.
Oui,
je suis un peu.
Attendez, excusez-moi Maria, je vous entends très mal. Parlez peut-être un tout petit peu plus loin du combiné.
Voilà, j'ai perdu ma soeur jumelle en septembre. Oui. Et j'arrive pas à me remettre de son absence. J'arrive pas à pleurer tous les jours. Et je suis perdue. J'ai été incinérée et on n'a rien pour se recueillir. Bon, j'ai mis des photos d'elle chez moi, quoi, pour avoir quelque chose, mais j'arrive pas.
Est-ce que vous voulez bien me raconter un peu votre histoire, Maria ? Quel âge avez-vous ?
J'ai 50 ans. J'ai une soeur, c'était ma soeur jumelle, on se voyait tout le temps, on était inséparables. Bon, elle travaillait comme infirmière en soins palliatifs, si vous voulez.
Est-ce que vous avez d'autres frères et sœurs ou vous étiez vraiment que toutes les deux ?
Oui, j'ai deux frères et bon, je suis sa sœur jumelle. Mais ma sœur et moi, on était très très proches. On avait toujours besoin de se voir tout le temps.
Des vraies jumelles,
oui, quoi. On n'est pas des vraies jumelles. On est nés un quart d'heure de différence, si vous voulez. Mais on était très proches. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle avait quelque chose, je le ressentais, si vous voulez.
Oui, c'est ça qu'on appelle des vraies jumelles. C'est pas une histoire de moment de naissance. C'est un lien de cœur comme ça qui est intense, profond.
Oui.
On dit quelquefois même que quand il y en a une qui sent une douleur physique, l'autre le ressent presque en même temps. Oui, c'est ça. C'est une connexion invisible.
D'accord. Je l'avais vu maigrir, si vous voulez. Mais elle m'avait dit non, mais je fais de l'anorexie. Et en fin de compte, au mois de mai, elle est tombée dans la rue. Et on a appelé les pompiers. Les pompiers l'ont emmené à l'hôpital, dans les urgences. Et elle m'a appelé le lendemain matin, elle m'a dit, viens me voir, c'est sous urgence, je suis tombée. J'ai dit, attends, j'arrive tout de suite. Et elle me rappelle, elle m'a dit, non, mais ça y est, on me fait ressortir, je rentre à la maison. Et quand elle est arrivée, je suis allée la voir, elle était toute maigre, elle avait perdu au moins, sans vous mentir, au moins 10 kilos, 15 kilos.
Mais en combien de temps?
En 3 mois, 4 mois.
Oui, c'est quand même signe qu'il y a quelque chose. Hein, ouais.
Voilà, mais moi, ce que j'en veux à son travail, parce qu'elle travaillait en soins palliatifs, si vous voulez. Et tout le monde a pensé qu'elle allait travailler jusqu'au bout. Hein. Personne ne s'est rendu compte de son état. Tout le monde pensait qu'elle était anorexie. Vous voyez comment vous expliquez ? Il n'y a personne qui s'est posé la question.
L'anorexie, ça n'arrive pas comme ça et c'est quelque chose de grave. Voilà. On ne peut pas dire que c'est juste de l'anorexie, c'est pas grave. Attendez, c'est une pathologie importante qui cache beaucoup de choses derrière. Donc même et si vous avez pensé...
Moi je m'en veux parce que je dis, mais j'aurais dû m'en rendre compte. Mais depuis quelque temps, je la voyais moins souvent parce qu'elle faisait des remplacements, si vous voulez. Mm-hmm. Elle travaillait beaucoup, elle aimait beaucoup son travail. Donc jamais, si je m'étais rendu compte, je l'aurais poussé à aller voir un médecin, quoi. Mais là, on m'a dit non, cette copine, elle m'a dit non, mais nous, on a dit qu'elle est anorexie. Et si vous voulez, j'arrive pas à me... à me mettre en tête que quand même, c'était dans un hôpital où elle travaillait, il n'y a personne qui s'est rendu compte, quoi. Il n'y a pas un médecin qui a dit, bon, venez, on va en consultation. J'arrive pas à savoir.
Alors oui, attention Maria, il est peut-être possible qu'il y ait des choses qui se soient dites et que vous ne l'ayez pas su. Peut-être qu'on lui a dit des D'accord. choses et qu'elle n'a pas voulu les entendre. Et moi, j'entends,
oui, parce que
j'entends que vous êtes dans la colère et c'est normal. Quand on est en deuil, on en a parlé juste avant avec l'auditrice précédente.
Oui, j'ai entendu. Oui,
quand
oui.
on est en deuil, on a une phase de colère et quelquefois dans la colère, on cherche aussi des responsables, même quand il y en a pas. Donc ouais, peut-être qu'effectivement, elle a été mal entourée. Peut-être qu'au contraire, il y a eu des choses qui ont été dites et qu'elle a pas voulu les entendre, qu'elle voulait pas répéter. Ça, on peut pas refaire l'histoire non plus. On sait pas vraiment quoi. Bah, quoi qu'il arrive, elle vous appelle donc pour vous dire qu'elle est à l'hôpital, mais que ça va, grosso modo. C'est ça.
Voilà.
Vous y allez.
Donc elle rentre chez elle. Donc je vais la voir et tout parce que bon, elle avait son mari et sa fille. Et je leur pose des questions, mais ils me répondent pas. Et si vous voulez, ils voulaient. En fait, on dirait qu'ils voulaient pas que je vienne la voir. Si vous voulez, ils ont cherché des excuses en me disant, tu sais, elle voulait pas te voir. Et ça m'étonne de ma sœur, si vous voulez, parce que ma sœur elle venait me voir tout le temps. Ben. Elle m'a dit non, ben, je voulais voir personne. J'ai dit, ah bon ? Et si vous voulez, ma sœur, elle me dit toujours, tu viendras me voir, hein, tu viens me voir. Parce que tous les jours, je venais la voir après mon travail. Je dis non, mais t'inquiète pas et tout. Mais chaque fois que je voulais être avec ma sœur, que je voulais lui parler, il y avait toujours mon beau-frère qui était au milieu, si vous voulez. Et elle s'arrêtait de parler. On dirait qu'elle avait peur de lui, si vous voulez. Mmh. Et par exemple, quand il partait de la chambre où il allait faire une course, eh bien, elle était bien avec moi. Elle ne vomissait pas. Elle était très bien. Vous voyez, elle se levait et tout. Et alors, je disais, c'est pas possible. C'est lui qui doit l'angoisser. Elle me cache quelque chose. On dirait que, quand elle était en relation avec lui, elle était pas bien.
Vous sentiez une tension, après, quelque chose comme ça?
Oui, on dirait qu'elle avait peur de lui.
Ouais.
En fait, j'ai découvert beaucoup de mensonges, si vous voulez. Dès qu'elle est morte... d'abord, là, j'ai plus de contact avec ma nièce ni mon beau-frère. Ils ont changé les numéros de téléphone.
Ah, mais attendez demandé... là, vous sautez les étapes. Moi, j'en suis restée au fait qu'elle vous dit qu'elle est tombée, mais quand est-ce qu'elle vous parle de cancer?
C'est qu'on l'a retournée à l'hôpital parce qu'on a dit on va vous passer des examens, vous savez, un scanner.
Oui.
Et là, elle est en oncologie. Donc, un mois, si vous voulez. Après, on l'a fait rentrer à la maison. On lui fait, vous savez, les soins à la maison. Et un jour, bon, moi, après, entre-temps, si vous voulez, on a décidé que j'avais un cancer, je pense que c'est le choc. Donc, je ne suis pas allée la voir pendant 15 jours. Et elle retourne à l'hôpital. Et là, on m'appelle et on me dit, elle est à l'hôpital. On a dit qu'elle était, perdue. Elle était en soins palliatifs.
Mais qui vous a appelé?
Ma nièce, si vous voulez.
D'accord, sa fille donc.
Voilà. Et donc, si vous voulez, donc je retourne à l'hôpital. Bon, après mes soins, parce que j'étais en train de faire des soins. Et quand je l'ai vue, elle était. Elle m'a pas vue pendant 15 jours. On dirait qu'elle s'est laissée mourir. Vous voyez? J'ai ressenti ça.
Elle était l'ombre d'elle-même.
Voilà. Elle ne parlait plus, elle me regardait, elle regardait dans le vide. Je lui disais, mais qu'est-ce que t'as? Elle m'a dit, non, rien, mais je vais bien, je veux reprendre mon travail en septembre. Mais j'ai dit, mais Christine, mais ça va pas, t'es malade, dis-moi ce que t'as. Et elle m'a dit, non, mais tout va bien. C'est eux qui ne comprennent pas. Ils ne veulent pas comprendre que je suis anorexique. Ce n'est pas possible. Et si vous voulez, je n'ai pas eu contact avec un docteur. Les docteurs, je n'arrivais pas à les avoir. Je n'arrivais pas à les voir, en fait.
Mais est-ce que vous pensez qu'elle était dans le déni ou qu'elle voulait vous protéger?
Je crois à la fin que... Quand elle m'a dit qu'elle allait mourir, parce qu'elle n'était pas bête, hein, elle travaillait dans un palliatif, quand elle était infirmière dans un palliatif, et un jour, elle m'a dit, je vais mourir. Et je dis, mais non, tu ne vas pas mourir. Il y en a qui s'en sortent et tout. Parce que je ne savais pas ce qu'elle avait comme cancer. Mmh. Et elle m'a dit, non, je vais mourir. Et je n'arrêtais pas de pleurer. Je pense que c'est ça. Je crois qu'elle voulait me protéger.
Ouais.
Et si vous voulez, je m'en veux parce que je me dis, j'aurais dû m'en rendre compte. Je pouvais peut-être l'aider, je ne sais pas.
Non, alors, ne rajoutez pas du chagrin sur du chagrin, Maria. Hein. Ça ne sert à rien. Les j'aurais dû, j'aurais pas dû, si j'avais dit, si j'avais pas fait, ça ne sert à rien. Vous avez été là, vous l'avez accompagné, vous l'avez aimé. Vous avez... Mais oui, c'est ça le plus important. Mais une fois de plus, c'est normal, on est tous pareils dans ces périodes de deuil. On a des phases de colère, après on a des phases de regret. Mon Dieu, si j'avais su, mon Dieu, si j'avais fait, si j'avais pas fait, ça n'aurait rien changé à l'histoire. Ça fait juste rajouter du mal sur du mal, ça. Donc la culpabilité, vous prenez un grand balai et vous l'enlevez.
Oui. Bon, tout cela, j'ai de mes parents, parce que mon père aussi a été choqué, il a eu un cancer. Il a été choqué en voyant ma sœur. Et donc, si vous voulez, tout le monde est dans le chagrin, quoi. Tout le monde se laisse aller, on n'a plus de contact, personne ne parle.
C'est souvent... Vous savez, le deuil est un chemin solitaire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi à l'auditrice qui a appelé à Brigitte que quelquefois, il n'y a pas forcément besoin de parler quand on ne sait pas quoi dire, mais juste être là.
Oui, c'est vrai.
Peut-être provoquer,
c'est dur.
Peut-être provoquer une réunion, un dîner avec la famille. Je ne sais pas si ça peut vous faire du bien de ressortir des photos, d'échanger des souvenirs, des choses comme ça.
Oui.
Vous avez entendu quand Brigitte disait qu'elle accompagnait sa collègue et amie à l'hôpital, elle lui racontait des anecdotes de travail de l'époque, elle lui rappelait des souvenirs. Peut-être aussi qu'en famille, ça fait du bien, même si on pleure, ça fait du bien de passer du temps avec la personne qui n'est plus là, en disant voilà, on va passer le temps d'un déjeuner, d'un dîner, peut-être d'une soirée ensemble, à parler d'elle, à regarder des photos, à se souvenir des bons moments.
Oui, je vais essayer de faire ça comme vous me dites.
Ça
va les aider aussi.
Ça fait partie de la reconstruction. Parce que c'est vrai que par maladresse ou par chagrin, on peut se renfermer sur soi-même parce qu'on ne sait pas quoi dire, qu'on ne sait pas quoi faire. Mais si chacun fait ça, vous allez tous être malheureux dans votre coin.
Ah oui, ce que je m'aperçois depuis quelque temps, c'est très dur. Ils ne veulent plus fêter Noël, ils ne veulent plus recevoir, ils ne veulent plus voir les gens. Il faut obligé de venir les voir parce que sinon ils sont tristes, ils ne parlent pas.
Alors que vous dites c'est son mari, elle a combien d'enfants?
Elle a deux enfants.
Et il y a des petits-enfants?
Non, non, non.
D'accord. Et
sa fille, elle est encore à l'école, elle a 15 ans.
Ah oui,
et l'autre, elle a 29 ans.
Bah là aussi, vous voyez, on parlait d'actes symboliques tout à l'heure, ça serait peut-être important de proposer ça aux filles.
Oui. Alors, mais j'ai plus contact avec la première fille. J'arrive plus à avoir contact avec elle. Elle a changé son numéro de téléphone.
Vous voyez avec qui vous avez contact et peut-être vous pouvez lancer une invitation, une réunion, quelque chose, et puis proposer quelque chose de l'ordre du symbole, comme on disait tout à l'heure.
Voilà.
D'aller planter un arbre, d'aller acheter une plante qui la représente elle.
Oui, et puis
veiller, cette jeune fille de 15 ans, c'est votre nièce.
Oui.
Veillez sur elle.
Mais là, son père, il a coupé les ponts avec nous.
Mais pourquoi?
Parce qu'ils se sont persécutés. On lui a demandé si on pouvait avoir des photos et tout. Il a dit, il n'y a rien qui sort de la maison. Et laissez-nous en paix. Et puis, il a changé le numéro de téléphone.
Bah, il est peut-être en état de choc aussi.
Oui.
Alors, dans ces cas-là, c'est peut-être trop tôt pour provoquer un dîner ou un déjeuner, mais vous pouvez peut-être écrire à votre nièce.
Oui.
C'est important. Mmh. Une jeune fille de 15 ans qui perd sa maman, c'est brutal.
Oui.
Et si son père n'est pas bien et qu'il n'est pas dans le dialogue, elle a peut-être besoin d'aide aussi, cette jeune fille.
Donc, je vais essayer de...
Lui dire que vous êtes là, lui proposer de vous voir, peut-être juste vous. Vous êtes quand même la sœur de sa mère. Et en plus, la sœur jumelle de sa mère, c'est pas rien.
Ah oui, en plus, oui. Donc, je le ressens beaucoup.
Je ne sais pas quels sont les tenants et les aboutissants de cette fâcherie-là avec le papa. Si c'est juste parce qu'il est en état de choc, ça va passer, ça va revenir. Après, il y a peut-être d'autres histoires de famille sous-jacentes.
Oui, je pense. Oui. Il y a tellement eu de mensonges, on ne sait pas la vérité, on ne sait rien.
Bon.
Voilà. Donc, vous me dites, je vais essayer de provoquer donc une rencontre. Je vais essayer de prendre contact avec elle. Et
avec elle déjà, parce que lui, je pense qu'il ne faut pas le prendre en frontal. Si pour l'instant, il est dans un chagrin et qu'il s'est renfermé, j'ai peur qu'il vous ferme la porte au nez une deuxième fois. En revanche, sans être intrusive, mais peut-être écrire un mot, un mail, une lettre à cette jeune fille en disant « Écoute, je suis là ». Si tu veux, on se voit. Si tu veux, on peut aller faire un acte symbolique pour ta maman. Vous me disiez qu'elle est incinérée et que c'est compliqué pour vous parce qu'il n'y a pas d'endroit. Mais l'urne, elle est bien quelque part.
On devait jeter les cendres où elle voulait qu'on les jette, quoi. Mm-hmm. Et qu'on a voulu faire une réunion, quoi, pour se réunir tous ses amis pour jeter dans des cendres où elle voulait. Il a plus voulu. Il a dit plus personne rentre chez moi. Il a gardé l'urne, si vous voulez.
Oui, donc il y a quelque chose chez lui qui s'est bloqué là. Ouais. Bah, d'où l'important justement de créer quelque chose de symbolique. Est-ce que vous vivez en ville ou à la campagne ?
En ville.
Donc en ville, dans ces cas-là...
Mes parents, ils ont une maison de campagne, donc on peut faire quelque chose.
J'aime bien l'idée d'aller planter un petit arbre qui soit un endroit de souvenir, vous voyez, pour toute la famille.
Que je vais faire, voilà.
Génération après génération, surtout quand il y a ce problème de l'urne, où effectivement on n'a plus cet endroit symbolique pour se poser auprès de la personne qui nous manque, eh bien c'est bien de remplacer ça par quelque chose, et un arbre, c'est un beau symbole quand on peut le faire.
Je vais écouter vos conseils, oui. Au moins on aura quelque chose, oui. Parce que bon, voilà, on a mis des photos, mais c'est pas pareil.
Vous avez mis des photos où ça ?
Mes parents, ils ont mis des photos dans leur salon.
Oui,
avec des
d'accord,
fleurs.
Oui, ouais. Mais c'est pas un endroit où on peut aller, voilà, c'est pas pareil que, comme vous le dites, d'aller quelque part. Non, se recueillir, je suis pas une fan de ce terme, se recueillir. C'est pas se recueillir, c'est simplement être avec la personne qui est partie.
Voilà, oui.
Se poser, oui, se donner un temps pour penser à elle avec quelque chose de symbolique. Et c'est vrai que l'arbre, d'accord, c'est aussi la vie, c'est aussi les racines, ça représente beaucoup de choses, donc...
Oui.
C'est vous pouvez peut-être. Pardon, excusez-moi, il y a du bruit sur la ligne, j'ai pas entendu.
Elle est tellement vite partie que j'ai pas eu le temps de faire, je sais pas.
Ben oui, bien sûr. Mais vous,
c'est trop dur.
Vous, est-ce que vous vous faites aider aussi sur ce chemin du deuil ?
Alors, je suis allée voir mon médecin parce que moi, je suis à un début de cancer, là. Je suis en train d'être soignée. Mmh. Et je voulais parler... j'avais parlé à mon docteur si je pouvais aller voir une psychologue. Elle m'a dit d'attendre un peu. Et qu'il fallait que... Parce que là, j'ai eu un début de cancer. Et j'ai repris mon travail pour me changer un peu les idées. Mmh. Elle m'a dit de reprendre mon travail. C'est vrai que ça va mieux, mais ça m'occupe un peu l'esprit. Mais elle m'a dit d'attendre pour aller voir un psychologue. Je sais pas pourquoi.
Bah alors oui, moi je sais pourquoi, parce que on dit, mais voilà, sur pareil entre la théorie et la pratique. Moi je pense que chaque être humain est différent. On dit qu'il faut pas commencer à travailler sur un deuil avant 6 mois, souvent.
D'accord.
Maintenant,
d'accord.
Mais si vous avez besoin d'en parler, et je crois que c'est le cas, si vous avez besoin de pleurer, si vous avez besoin d'une épaule, n'attendez pas 6 mois. Franchement, attendez pas 6 mois.
Oui, parce que je dors tous les soirs, même ma fille, elle en peut plus. Ouais, oui. C'est pas qu'elle en peut plus, mais elle peut que me dire « Mais maman, je suis là. »
Et oui, elle peut pas comprendre la puce. C'est pas elle de porter ça non plus, bien sûr.
Oui.
Donc c'est pour ça que moi, je vous conseillerais de pas attendre. Si vous avez besoin de ça, trouvez une épaule sur laquelle vous posez, ça va vous faire du bien. Quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui éponge votre chagrin avec vous et qui vous accompagne sur ces étapes-là.
Oui.
Une fois de plus, vous êtes la personne la mieux placée au monde pour savoir ce qui vous convient. Alors les gens peuvent vous donner des conseils, faites, ne faites pas, simplement faites ce que vous sentez, et si ça vous convient, ben faites-le, tout simplement. Trouvez une thérapeute, commencez ça. Si ça vous convient pas, et ben vous dites non, ça, peut-être c'est trop tôt, j'irai plus tard. Si ça vous fait du bien, ben ça sera vraiment une soupape, un moment pour vous qui vous aide à vous reconstruire aussi, parce que c'est un deuil particulier, la gémellité en plus. Hein.
C'est terrible.
C'est quelquefois.
J'ai perdu quelque chose. Je sais que j'ai perdu. Avant, j'étais gay, je sortais beaucoup. J'ai plus envie de rien, en fait. C'est comme mon travail, je rentre chez moi.
C'est comme si on vous avait amputé d'une partie de vous.
Ah oui, oui, oui.
Ouais.
C'est dur.
C'est ce que disent souvent les gens qui perdent quelqu'un, mais encore plus quand il s'agit de son jumeau. On a vraiment la sensation qu'une partie de soi, même physiquement, c'est presque une douleur physique qui manque, qui a un manque.
Ah oui. C'est dur.
Ben bien sûr, c'est dur. Bien sûr, c'est dur. Et c'est terrible qu'une fois de plus, et je le dis souvent, on nous apprend pas la mort. On est perdu.
C'est vrai.
On nous apprend pas depuis qu'on est tout petit. On nous apprend les mathématiques et la grammaire. Ça, c'est important. Mais nous apprendre la mort.
Après qu'on arrive, c'est dur.
Ouais. Oui, quand on se trouve confronté à ça, on est perdu parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner, parce qu'on a toutes ces souffrances et qu'on est en... Ouais. Mais c'est pour ça que la symbolique est très importante dans ces moments-là et que vraiment cette solution d'aller trouver un endroit, de planter un arbre, en l'occurrence, pour quand c'est un petit enfant, je parlais d'un nounours tout à l'heure, avoir une représentation symbolique, c'est important pour commencer à trouver un apaisement.
Ouais. Et je suis tellement en colère que l'autre fois, j'ai rêvé d'elle et je l'ai poussée dans mon rêve. Attends, je ne veux plus te voir.
Vous l'avez engueulée.
Oui.
Mais vous avez le droit d'être en colère, c'est humain, bien sûr. On passe tous par cette colère.
Mais pourquoi tu m'as laissée ?
Pourquoi tu m'as laissée ? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Tu n'avais pas le droit.
Ah oui. Ouais.
Mais ça, c'est normal aussi. Hein. On a le droit d'avoir la colère quand on vit tout ça, bien sûr. On passe par une sorte d'arc-en-ciel d'émotions.
Oui.
Sentiment d'injustice.
C'est pas comme vous m'avez dit. Oui, c'est le temps qu'on m'avait dit, je vais planter un petit arbre et moi je pourrais me recueillir là.
Et ce qui me paraît bien, c'est vraiment de proposer à votre nièce de le faire avec vous et même à votre fille.
Oui. Ah. Oui, ma fille, elle comprend, elle est très intelligente.
En plus, c'est la génération d'après, donc ça veut dire qu'il y a une continuité dans l'histoire de la famille. Et donc c'est important aussi que symboliquement, elle participe à cet acte-là.
Oui, parce que bon, elle a vu qu'on était à l'enterrement, elle m'a dit, quand elle a vu des photos, elle m'a dit, j'ai cru te voir.
Ben oui.
Elle a été choquée.
C'est ça qui est compliqué quand oui, bien sûr. Vous vous rendez compte, quand vous enterrez quelqu'un et qu'à l'enterrement, vous avez son double devant vous.
Oui. J'ai vu que tout le monde me regardait, c'était dur.
Ben, c'est pas évident, oui, parce que vous sentez très différente, j'imagine. Bien sûr. Oui. Alors que eux, c'est un reflet d'elle qui voit.
Ah oui, tout le monde qui me regardait, ça me gênait, quoi. Et ma fille, quand elle m'a dit, mais tu sais, elle faisait que pleurer, elle m'a dit, maman, je crois te voir sur les photos. J'ai dit, c'était dur. On parle, mais en ce moment, je la laisse. C'est pas que je m'occupe pas d'elle, mais je suis dans un autre monde. Elle ne peut que me dire, mais t'as l'ouest, maman. Mais j'ai tellement de chagrin.
Bien sûr.
C'est pour ça,
Maria, que je vous invite vraiment à trouver quelqu'un qui va éponger ce chagrin-là avec vous.
Oui, d'accord, je vais faire comme vous me dites.
Et puis, si vous le voulez bien, vous savez que j'ai une mine de textes formidable et j'aimerais pour vous quitter vous en offrir un ce soir. D'accord.
Ah, merci beaucoup. Merci.
Je vous embrasse et pour vous, je vais lire ce texte-là.
Merci beaucoup, Sabine. Merci. À bientôt.
Merci, Maria.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
J'ai oublié en parlant d'elle que mes lèvres pouvaient sourire. Mes larmes ont concurrencé les gouttes de pluie et ont anéanti tous mes rires. J'ai cherché à me souvenir de ces bons moments passés ensemble, mais quand je pense à elle, c'est tout mon corps qui tremble. Une éclipse m'a plongée dans le noir depuis que je ne peux plus la voir. Mais bizarrement, mes yeux voient quelque chose briller. Et étrangement, une étoile semble s'éclairer. Je sais que c'est elle, je sens que c'est elle. Elle fait comme quand j'étais petite, me pince pour me rappeler que je suis en vie. Parce que depuis son départ, je survis. Mon château de cartes s'est écroulé. Au vent de la tristesse n'a pas résisté. À la tempête de l'injustice s'est envolée. À la tornade de la colère s'est volatilisée. Au cyclone de la culpabilité s'est effondré. Si j'avais fait ceci ou cela, et si j'avais été avec elle ce soir-là, autant de si qui m'accable, autant de pensées qui me rendent coupable. Pourtant, son âme a choisi que son voyage s'arrêtait ici. Elle est rentrée à la maison après ce mémorable circuit qui lui a fait rencontrer des personnes extraordinaires et qui lui a fait croiser ma vie. Que dois-je faire pour honorer sa mémoire ? Me noyer dans ce désespoir ? Ou la rendre fière de ce que je vais continuer à faire sur Terre ? Si les rôles étaient inversés, et que c'était elle qui était restée. Je souhaiterais la voir heureuse parce que je l'aime. Alors pourquoi ne pas être heureuse pour elle parce qu'elle nous aime ? Je me souviens de sa tenue préférée, je sais qu'elle continue à la porter, même si elle est invisible désormais. Ça lui permet de rester à mes côtés. Parfois je sens son odeur, je la connais par cœur. Je sais qu'elle s'assoit dans un coin du salon pour regarder avec moi l'émission, que nous regardions chaque mercredi. Elle a l'avantage de savoir comment ça finit, mais elle ne me l'a pas dit. Elle me laisse la surprise pour que la fin soit exquise. Elle est là pour toujours avec ses rires, ses défauts et ses beaux discours. Elle continuera à me faire sourire quand je penserai à nos délires. Elle continuera à me faire rougir quand je l'entendrai à nouveau me dire que je suis la plus belle. Même si cette voix résonne seulement à l'intérieur de moi. Elle continuera à me faire languir quand je lui demanderai un signe pour mieux dormir. Pour savoir qu'elle va bien, et quand elle m'en donnera un, que ce soit une lumière, une musique, un mot, je serai soulagée de savoir qu'elle s'amuse là-haut. Et en même temps, je comprends qu'il l'ait rappelée. Elle avait de si belles choses à partager. Elle le fait maintenant avec le reste de l'humanité. Elle fera toujours partie de ma vie. Ses 21 grammes sont restés ici. Et si son corps est redevenu poussière, si ses cendres se sont mêlées à la terre, son âme est éternelle et son amour me donne des ailes. C'est Otis Redding. Notre émission touche à sa fin. Un grand merci à Karine, Nathalie, Maryse, Brigitte, Maria. Merci à vous tous qui avez participé par SMS. Je vous quitte avec cette pensée de Jacques Salomé. Soyez le vivant de la vie. Ne cherchez pas d'autres richesses que celles de l'amour. Bonne nuit, je vous retrouve demain soir à partir de 23h sur cette antenne.